Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir, on va revenir aujourd'hui sur la charge que mène Donald Trump contre les inspecteurs généraux. Les inspecteurs généraux, ce sont des fonctionnaires qui peuvent enquêter en interne au sein des ministères américains. Et en seulement quelques semaines, Donald Trump en a renvoyé 4. Pour l'opposition démocrate, c'est clair, il s'agit de décisions politiques et personnelles. Les inspecteurs généraux dans le viseur de Donald Trump, c'est notre décryptage du jour. Bienvenue. Je reçois 2 invités pour en parler. Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et vous avez écrit « Les États-Unis et la démocratie » qui est paru chez l'Harmattan en novembre dernier. Et nous sommes en ligne également avec Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'Institut français de relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, je pense qu'il faut qu'on explique un petit peu ce que c'est que cette fonction. Les inspecteurs généraux datent de 78. Ils sont nés dans un contexte très particulier après le scandale du Watergate. Quel était le but, Laurence Nardon ?
Eh bien, très clairement, le but était d'avoir un meilleur contrôle au sein des administrations dans les situations possibles de corruption, de conflits d'intérêts. Ces inspecteurs généraux, donc il y en avait 12 au départ, maintenant il y en a beaucoup plus. Il y en a un par agence ou par ministère, si vous voulez.
Donc aujourd'hui, il y en a dans tous les ministères
des manquements. Oui, 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 et même plus, il y en a dans les agences qui sont à l'intérieur des ministères. Il y en a vraiment un bon nombre. Et lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas, ou qu'on les prévient, ils mènent une enquête. Et au final, si l'enquête leur paraît apporter des preuves suffisantes de malversation ou autre, eh bien, ils préviennent le Congrès. Et le Congrès se saisit alors de l'affaire. Et donc, c'est un rôle extrêmement important et ils peuvent mettre à mal des fonctionnaires malhonnêtes très haut dans la pyramide de l'exécutif.
D'ailleurs, on a bien vu l'importance de ces fameux inspecteurs généraux. Anne Desine, c'est par eux, par exemple, qu'on a appris que la CIA torturait des prisonniers en toute illégalité ou encore que les États-Unis avaient dilapidé des milliards de dollars en Afghanistan, entre autres.
Oui, exactement. Le fait que ça ait été voté dans le sillage des réformes du Watergate dit bien quelle est la philosophie derrière la loi de 78 et derrière ces inspecteurs généraux. Il y en a actuellement 75. On s'inscrit en plein dans la culture politique américaine qu'on peut résumer par 3 concepts, les freins et contrepoids, la accountability, le fait que les gens de l'administration sont redevables de leurs actes, personne n'est au-dessus de la loi. Et la notion d'oversight, de surveillance de contrôle, qui est partagée entre le Congrès, qui essaie tant bien que mal de mener à bien cette fonction actuellement, mais sur ce front aussi, Donald Trump fait de l'obstruction quand il refuse les citations à comparaître, etc. Et sinon, l'autre volet de cette surveillance est accompli par les inspecteurs généraux qui ont 75, mais ils ont une énorme administration avec des formations d'enquêteurs, d'audits, etc., de plus de 10 000 enquêteurs. Et cela permet effectivement de révéler d'énormes scandales. Il y a celui de la torture, il y a celui de la marine, il y avait une sombre combine avec de la corruption, des appels d'offres truqués, etc. Et aucun membre de l'exécutif, aucun président n'adore les inspecteurs généraux. Obama en avait limogé un et Reagan avait essayé de les limoger tous.
Mais là, nous oui, avons justement, puisque vous en parlez, il faut quand même préciser, avant de revenir plus précisément sur Donald Trump, que d'autres présidents avant lui ont renvoyé des inspecteurs généraux.
Oui, mais on parlait de un sur un mandat. Et quand Reagan a voulu en limoger plus, il y a eu un tel tollé qu'il a renoncé. Là, nous sommes dans une situation totalement différente où le président commet des illégalités pratiquement sur une date quotidienne et il ne se passe rien. Or, l'un de ceux qui a été limogé, Fine, c'est celui qui devait être à la tête d'une commission de contrôle, vérifiant comment les 2000 milliards de dollars votés par le Congrès allaient être distribués. Parce que la crainte, c'est que ces fonds soient distribués aux petits copains de Donald Trump et aux républicains, et pas du tout aux États démocrates, par exemple.
Vous nous le disiez, Anne Desine, Donald Trump n'est pas le premier, mais jusqu'à présent, ça n'avait pas atteint une telle ampleur. Et puis un certain nombre de présidents, dont Reagan ou Obama d'ailleurs, avaient retenu la leçon et plus vraiment touché aux inspecteurs généraux. Et puis, ben voilà, Donald Trump. Et pour lui, ça prend quand même un sens particulier, Laurence Nardon. Ça va avec une vision de son rôle et de son poste de président.
Oui, bah je crois que là, finalement, c'est la suite d'un feuilleton qui dure depuis janvier 2017, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Finalement, on n'a même pas tellement lieu d'être étonné. C'est juste une nouvelle étape dans le rapport de Trump à son pouvoir de président. Il est clair depuis le début que Donald Trump n'est pas un président comme les autres, dans la mesure où il ne fait pas de différence entre ses intérêts business, puisqu'il en a encore, sa personnalité intime, puisqu'il est extrêmement susceptible, et son rôle de président avec ses attributions présidentielles qui ont quand même des limites liées à la Constitution. Et pour lui, on a le sentiment, parce que les psychologues disent qu'il a un défaut narcissique, bon, il a des qualités immenses de communicant en tant que président, c'est quelque chose de très marqué chez lui, mais enfin, il a ses problèmes ses travers psychologiques qu'on lui connaît. Et donc, c'est quelqu'un qui traite la présidence un petit peu comme il a traité ses affaires de l'immobilier new-yorkais dans les années 1980, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre toutes ces strates de pouvoir autour de lui, et qu'il n'accepte pas, comme Anne Desine le disait tout à l'heure, il n'accepte pas la notion de contre-pouvoir par rapport à ses fonctions de président. Et c'est pour ça que ces inspecteurs généraux, pour lui, semblent une atteinte inacceptable à son pouvoir de président. Il n'a pas compris qu'il y avait des contre-pouvoirs constitutionnels, et là, en l'occurrence, les inspecteurs généraux en sont une émanation tardive, mais réelle. Il n'accepte pas ces contre-pouvoirs.
Pour Donald Trump, c'est encore un moyen de résister à ce qu'on appelle de manière assez péjorative d'ailleurs le deep state, Anne Desine.
Oui, pour lui tout est deep state, toute personne, toute institution qui ose dire que le président ment, que le président viole la Constitution fait partie du deep state.
Donc, alors là, j'ai dit deep state, mais je vais peut-être vous laisser expliquer pour nos auditeurs ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que j'ai parlé un peu vite.
Alors, l'état profond a plusieurs sens, mais pour Donald Trump, c'est clair, pour lui, qui est quand même un petit peu paranoïaque, pour continuer dans le psychologique, toute personne qui le critique fait partie du deep state. Il considère que l'administration, ce qui n'est pas vrai, il y a des républicains et des démocrates dans l'administration, que l'administration lui est hostile, que l'administration est peuplée de petits copains d'Obama, d'Hillary Clinton, qui n'ont pour seul objectif que sa présidence échoue. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est la conséquence du limogeage de ces inspecteurs généraux. Donc, ils sont limogés, donc ils ne peuvent pas se livrer à l'enquête ou au contrôle de distribution des fonds, qui est leur mission. Mais pour les remplacer, Trump nomme des petits camarades. Alors, il les appelle loyaux, c'est-à-dire des gens qui, eux, ne vont pas enquêter et qui se trouvent en situation de conflit d'intérêts parce que les deux derniers qu'il a nommés, et c'est une nomination temporaire, parce que théoriquement, il faut l'approbation du Sénat. Donc, les deux derniers qui ont été nommés sont censés enquêter dans le ministère dont ils émanent. L'un d'entre eux était au ministère du Transport. Son nom, il s'appelle Elliot, mais ce n'est pas important. Et il doit enquêter sur sa patronne, c'est-à-dire sur la ministre du Transport, Hélène Chao, qui fait l'objet de tout un tas d'enquêtes, en particulier par l'inspecteur général précédent, parce qu'elle... Elle doit gérer aussi les oléoducs et il y a un nombre incroyable, plus de 3000 incidents impliquant des oléoducs chaque année avec des morts et des blessés. Et donc le nouveau ne va sans doute pas enquêter avec beaucoup de zèle sur tous ces scandales, les scandales des oléoducs n'étant qu'un exemple du ministère du Transport. Et l'autre problème, c'est que les lanceurs d'alerte, celui qui a osé parler du téléphone avec le président ukrainien,
justement, puisque vous en parlez de ce lanceur généraux d'alerte, cette purge, comme on dit certains médias américains, elle a commencé il y a quelques semaines en lien avec cette affaire que vous évoquez, Anne Desine, oui. En pleine épidémie de coronavirus. Eh bien, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il renvoie un inspecteur général et pas n'importe qui, puisque c'était celui qui avait reçu la plainte du lanceur d'alerte à propos de ce fameux coup de fil au président ukrainien et qui avait entraîné après toute la procédure de destitution.
Exactement. Et là, on voit un schéma dont il faut craindre qu'il se reproduise. C'est-à-dire que nous aurions théoriquement un lanceur d'alerte dans un des ministères, l'une des agences, qui n'osera pas contacter l'inspecteur général parce qu'il sait que l'inspecteur général est totalement acquis à Donald Trump. Et donc, le problème, c'est qu'on a vraiment cet oversight, ce contrôle de la présidence qui est en train de disparaître.
Et on a vu cette situation se répéter à plusieurs reprises. On aura l'occasion de parler des différents profils des personnes qui ont été limogées. On vient d'en évoquer un. Le dernier en date à avoir été renvoyé, c'est Steve Lenick, un vendredi soir sans explication. Lui, il avait eu la mauvaise idée d'enquêter sur Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État. Sur quoi portaient ces enquêtes, Laurence Nardon ?
Eh bien, en fait, Steve Lenick avait plusieurs enquêtes en cours. Hein. L'une portait sur des contrats de vente d'armes passés par le président avec l'Arabie Saoudite, donc des ventes d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, sans passer par le Congrès, ce qui est illégal. Et puis celle qui fait la... Donc, il y avait d'autres enquête que je ne cite pas, mais celle qui fait la une des journaux, c'est le fait que M. Pompeo et son épouse aient employé un political appointee, c'est-à-dire un fonctionnaire nommé au sein de leur ministère, pour des usages qui n'avaient rien à voir avec son travail. Ils l'ont, paraît-il, selon l'enquête, employés pour promener leurs chiens ou aller chercher leurs affaires au pressing. Ça, c'est la petite histoire qui fait la une des journaux. Et c'est ce monsieur qui enquêtait sur ces malversations qui vient donc d'être renvoyé, comme vous le disiez, un vendredi soir, parce que tous ces renvois, pour que ça ne fasse pas trop la une de la presse, sont annoncés très tard le vendredi par l'administration Trump. Les journaux appellent donc ça des « late Friday night firings », ce qui ne devrait pas nous faire sourire d'ailleurs, parce que c'est assez grave. Mais... je pense que ça ne contribue pas à renforcer l'image de l'administration Trump.
D'autant plus que là, Mike Pompeo s'est ensuite exprimé sur ce sujet et a dit ouvertement que c'est lui qui avait demandé à Donald Trump de limoger Steve Lenick, donc cet inspecteur général.
Oui, et c'est bien là qu'on voit que Pompeo, donc le secrétaire d'État qui a remplacé Rex Tillerson, le premier nommé par Trump au début, Mike Pompeo est vraiment sur la ligne présidentielle. On le voit d'ailleurs dans les conférences internationales tenir la ligne de Trump. C'est lui, par exemple, il y a quelques semaines, qui a fait capoter la déclaration commune d'un sommet du G7 entre ministres des Affaires étrangères. C'était au début de la pandémie, ce sommet se tenait par Internet interposé, pas en vrai, mais virtuellement. Eh bien, ce sommet du G7 n'a pas pu adopter un communiqué commun parce que Mike Pompeo insistait pour que le virus soit désigné par le terme « virus du Wuhan », ce que les autres ministres des Affaires étrangères du G7 ne voulaient pas accepter pour ne pas incriminer la Chine, qui est pour beaucoup de choses dans la manière dont l'épidémie s'est répandue, mais certainement pas trop dans l'apparition du virus lui-même, si vous voulez. Et ça montre bien que Mike Pompeo est l'un des fidèles du président.
Donc exactement sur la même ligne que Donald Trump. Alors après ces limogeages en série, les démocrates ont fait savoir qu'ils n'appréciaient pas du tout la méthode. Mais en fait, Anne Desine, est-ce que le Congrès a un pouvoir quelconque sur ce sujet ?
Il aurait un pouvoir, et en particulier il pourrait renforcer la loi de 1978 en prévoyant des garde-fous et en rendant impossible le limogeage de ces malheureux inspecteurs généraux s'il n'y a pas une faute commise. Or, dans tous ces exemples, il n'y a pas de faute. Mais nous butons sur l'un des problèmes qui est que les républicains au Congrès ont tellement peur de Donald Trump, tellement peur qu'il suscite une primaire très à droite qui leur ferait perdre leur siège, qu'ils ne bougent pas. On est dans la même situation que pendant l'impeachment. Et l'autre problème, c'est que le département de la justice, donc la mission est d'enquêter et qui pourrait prendre la suite de ces enquêtes, est entre les mains d'un autre inféodé à Trump, qui s'appelle William Barr, qui est en train d'essayer d'agir contre le judiciaire, et en particulier dans l'affaire du premier conseiller à la sécurité nationale. Là, il est en train de se passer là aussi une autre violation du contrôle, et cette fois-ci le contrôle par le département de la justice et par le judiciaire. Flynn avait plaidé coupable. Bon, quand on a plaidé coupable, c'est fini. Et là, le ministère de la Justice, donc Barr, et Trump disent « Oh, le pauvre, on l'a obligé à plaider coupable, finalement il n'a rien fait, on va le relâcher ». Je caricature, mais c'est un petit peu cela. Et cela veut dire que dans les trois possibilités de contrôle sur la présidence, le Congrès, à l'intérieur de l'administration, donc les inspecteurs généraux et le judiciaire, ces trois moyens de contrôle sont attaqués quotidiennement par Trump et avec beaucoup de succès, ce qui est un petit peu inquiétant.
Y compris notamment, vous l'avez dit, du côté du Congrès, c'est vrai que les Républicains gardent le silence. Alors, je ne sais pas si c'est un silence gêné ou un silence d'approbation, mais en tout cas, il faut reconnaître, Laurence Nardon, qu'il n'y a pas beaucoup de voix pour critiquer cette série de licenciements ou bien les blocages à différents niveaux dont nous parlait Anne Desine à l'instant.
Vous voulez dire du côté républicain, c'est ça ?
Oui.
Oui, oui, bien sûr. Le Parti républicain a été pris en otage par Trump lors de la primaire de la précédente élection, enfin en 2016. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point les élus républicains, Mitch McConnell en tête, hein, le chef de la majorité républicaine au Sénat, sont dans un état de sidération devant Donald Trump. Comme le disait Anne Desine, certains d'entre eux ont peur de ne pas pouvoir être réélus dans leur circonscription s'ils se plaignent du président, parce que ce dernier pourra leur nuire. Mais beaucoup sont finalement silencieux et relativement lâches. Alors, je parlais de Mitch McConnell. Lui tire certainement son épingle du jeu. Mais pour le reste, le seul aujourd'hui qui ose résister à Trump et dire qu'il n'est pas d'accord, c'est Mitt Romney, cet élu mormon de l'Utah qui s'était présenté malheureusement contre Obama en 2012, hein, qui avait perdu à l'époque. C'est le seul, il a pris la succession de John McCain, rappelez-vous, qui avait été précédemment l'un des rares élus républicains à oser dire ce qu'à mon avis, beaucoup d'autres républicains pensent tout bas.
Donc ça fait une voix chez un républicain qui compte, mais bon, ça fait quand même qu'une seule personne. Anne Desine, il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur un point que vous avez évoqué, c'est les pressions sur ces inspecteurs généraux, au point qu'on se demande si évidemment ça ne va pas nuire à leur travail, notamment par exemple pour le comité de surveillance de la réponse au coronavirus. D'autant plus d'ailleurs que Donald Trump s'en est pris aussi à une inspectrice générale après un rapport sur la difficulté des hôpitaux à gérer la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, ce comité de surveillance a vraiment les mains libres, Anne Desine ?
Pas du tout. Il a perdu son chef, puisque le chef a été limogé. Et donc, les inspecteurs généraux qui devaient travailler en coopération avec ce chef sont un petit peu démunis. Donc, ils vont tenter d'enquêter, mais quelle suite sera donnée à leur enquête, on ne sait pas. Et surtout, je suis sûre que chacun d'entre eux se demande si je publie telle et telle chose, si nous publions un rapport conjoint mettant en lumière qu'il y a eu des malversations, des préférences politiciennes, etc., ben je perds mon job, je saute. Et il y a ce qui se passe depuis le début dans l'administration. Ces gens intègres se disent « Est-ce que je sers mieux mon pays en essayant de rester en poste et en tentant de minimiser les dégâts ? Ou bien est-ce que je révèle l'ampleur de la catastrophe ? Et dans ce cas-là, je sais que je suis limogé. »
Donc nous en sommes sachant dans que ça sera situation. Une fois, parce qu'évidemment, il y a des menaces énormes sur leur travail. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux, d'y avoir participé. Anne Desine, juriste. Je rappelle le titre de votre livre, « Les États-Unis et la démocratie », il est sorti chez L'Harmattan en novembre dernier. Et Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis à l'IFRI. Merci aussi à toute l'équipe de Décryptage, Éléonore Krenik, Fabrice Violet et Patrick Adam. Merci à vous qui nous écoutez. Dans un instant, c'est le débat du jour, donc restez sur RFI. Guillaume Nodin et ses invités s'interrogent sur les chances de la grande concertation sur l'hôpital public qui commence aujourd'hui en France. Très bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous. À demain.